inflationné au ralenti et la situation ne devrait pas s'améliorer demain. Dans les transports, les préavis de grève ont été prolongés jusqu'à lundi soir. Comment le gouvernement espère-t-il débloquer la situation? François Langlais nous rejoindra. L'usine Lubrizol, dévastée par un incendie il y a 2 mois, va-t-elle bientôt rouvrir, au moins partiellement? Une commission régionale a donné son autorisation. Nous sommes retournés sur place. Dans ce journal également, une solution simple pour polluer moins. En abaissant leur vitesse, les cargos réduisent considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre. Il suffisait d'y penser. Les armateurs commencent à le faire. Enfin, nous irons au pays où les échecs sont rois. Les Norvégiens se sont pris de passion pour ce jeu. À l'école, dans les bars et même à la télévision, les parties retransmises en direct battent des records d'audience. Les syndicats promettaient une mobilisation massive. Ils ont réussi leur pari. Selon un chiffrage officiel, 806 000 personnes ont manifesté partout en France. Selon la CGT, il y avait plutôt 1,5 million de manifestants. Mathieu Poissonnet, Jean-Philippe Equette et toutes nos équipes en région.
Voilà bien longtemps que les boulevards parisiens n'avaient pas connu pareille foule. 65 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, des pompiers, des enseignants, des infirmières et bien sûr des cheminots, comme Régis.
Quand je vais finir, je vais perdre 400 euros par rapport à aujourd'hui ma retraite. C'est les calculs et les projections qui ont été faites. Si la réforme passe, moi je vais me retrouver avec un niveau de pension qui va être de 1200 balles pour avoir fait des 3-8 pendant 30 piges.
Dans le cortège, beaucoup de blouses blanches. Récemment, ils ont interpellé le gouvernement sur les difficultés qu'ils rencontrent à l'hôpital. Alors pour Samira, infirmière, pas question de travailler plus longtemps.
La retraite à 62 ans, c'est pas possible. Je suis infirmière, j'y arriverai pas. Et là, je suis au stade de vouloir quitter mon métier et de faire autre chose parce que je peux pas. C'est pas possible.
La fonction publique bat le pavé. Les enseignants notamment, profs du primaire ou du secondaire, nous en avons rencontré ici, à Marseille.
Bien entendu, cette nouvelle condition, ça va faire qu'il y aura encore moins de candidats au concours et encore moins de profs titulaires dans les établissements.
Parmi les 25 000 Marseillais qui ont manifesté, les enseignants ont pu compter sur leurs élèves.
C'est dans longtemps, mais il faut s'y préparer. Quand on voit nos enseignants s'affoler pour ce qui va leur arriver, nous aussi, ça nous fait peur. Quoi.
Les retraités, eux, ne sont pas concernés par la réforme, mais à Toulouse, à Lyon, à Lille ou ici, à Rennes, ils ont manifesté.
Moi, je suis à la retraite. Ok, j'ai encore bénéficié d'un système qui était déjà en train de se dégrader, mais je crois que c'est rien par rapport aux futures générations quand ils vont partir.
Seront-ils aussi nombreux dans toute la France lors des prochaines journées de manifestation? Les syndicats doivent annoncer une nouvelle date dès demain.
Sans surprise, la manifestation la plus importante a eu lieu à Paris, entre la gare du Nord et la place de la Nation. La préfecture de police et les syndicats craignaient la présence de Black Blocs. Et effectivement, plusieurs centaines de casseurs se sont infiltrés dans le cortège. Frédéric Agnès, Pierre-Emmanuel Chinardet et Henri Dreyfus.
La foule est dense et la tête de cortège est bloquée aux abords de la place de la République, c'est-à-dire à environ 1,5 km du point de départ. Vers 15h30, des groupes devancent les manifestants et commencent à casser. Un Algeco, du mobilier urbain, quelques vitrines aussi, taguées du sceau anarchiste. Le patron de cette agence vient de nous livrer sa réaction.
Là, ce sont des casseurs. On ne fait pas l'amalgame entre les manifestants et les casseurs. Ce sont vraiment des gens, ils sont en noir, ils sont masqués, ils veulent faire du mal, ils veulent casser, quoi.
Pour disperser ces fauteurs de troubles, beaucoup de gaz lacrymogène d'abord. Puis assez vite, les policiers optent pour une stratégie plus offensive. Ils vont au contact pour extraire de la foule les éléments perturbateurs. En fin d'après-midi, 90 personnes avaient été interpellées, 60 étaient en garde à vue. Ces incidents se sont produits sur un périmètre restreint et pendant environ 1h30. Ceux qui voulaient en découdre ont jeté sur les forces de l'ordre des projectiles dangereux, comme ces rondins de bois cloutés. Un homme a même donné du poing. Des actes malgré tout sporadiques.
Et les casseurs, finalement, aujourd'hui, ils ont été minimes, je trouve. Donc, c'est pas, ça entache pas cette journée, je trouve.
Vers 17h30, le cortège pouvait à nouveau repartir pour rejoindre la place de la Nation.
Bonsoir Pierre-Emmanuel Chinardet. On sait que depuis plusieurs mois, c'est au moment de la dispersion des cortèges qu'éclatent les incidents. Vous êtes place de la Nation. Quelle est la situation ?
Écoutez, Gilles, la situation est un retour au calme relatif ici, place de la Nation, où les manifestants se sont rendus, après les incidents de la place de la République, ils se sont rendus dans le calme, dans les champs. Il y avait beaucoup donc de syndicats qui ont rejoint cette place de la Nation. Il y a eu, au début de la soirée, quelques échauffourées, quelques incidents avec les forces de l'ordre, mais ensuite, il y a eu un retour au calme assez relatif, et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le calme est revenu ici, place de la Nation. Vous le voyez, les forces de l'ordre sont en train d'évacuer juste derrière moi les derniers manifestants. La manifestation devait se terminer vers 19h. Voilà pourquoi les forces de l'ordre tentent de faire évacuer tous les manifestants ici, place de la Nation.
Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. Selon le gouvernement, 21% des fonctionnaires étaient en grève. Aujourd'hui, les Français se sont rendus compte qu'une grande partie des services publics tournait vraiment au ralenti. Chose vue en cette journée, pas comme les autres. Justine Corbillon et toutes nos équipes sur le terrain.
À moto, à vélo ou à pied. Nous avons suivi cette journée de grève partout en France. Un jeudi aux aires de dimanche dans beaucoup de villes françaises. Première étape, Paris, 7h, l'heure de pointe. Enfin, pas ce matin.
RER vide.
On a voyagé même mieux que d'habitude.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui a décidé de pas aller travailler.
Difficile de se dire autre chose quand on voit ces images à Rennes. Le TGV de 7h direction Paris était le seul maintenu aujourd'hui. Ça n'a visiblement pas intéressé grand monde. À Toulouse, les gilets rouges censés informer les voyageurs s'ennuient un peu. C'est sur le bus que les Toulousains se sont rapatriés. Celui-ci part à Lyon.
Au lieu de 4 heures par TGV, ça va être 7h30, 8h.
Retour en banlieue parisienne, car ça se complique en milieu de matinée. Avec un RER toutes les 30 minutes, pas question pour les voyageurs de manquer le train.
Là, je vais pousser.
Mission accomplie. C'est ce qu'ont vécu aujourd'hui tous les salariés qui n'ont pas pu faire autrement que de maintenir leur trajet. À Orly, beaucoup avaient espéré être sur le bon vol, mais 20% ont été supprimés.
Tous les vols de Biarritz sont annulés aujourd'hui, donc je me rabats sur Bordeaux en espérant que le vol soit maintenu.
Finalement, c'est la route qui fut aujourd'hui la valeur sûre. Nous avons fait le test sur l'un des trajets les plus encombrés de la capitale. Départ de Lagny-sur-Marne à l'est de Paris, direction Boulogne-Billancourt à l'opposé, à l'ouest. 40 km qui d'habitude prennent 1h30, verdict, 26 minutes cette fois-ci. Comme si cette journée avait été beaucoup plus calme que prévu. À Angoulême, on s'attendait à avoir des services publics, comme la Poste, à l'arrêt.
Je pensais que ça allait être fermé, je suis venu quand même ce matin, mais bon, c'est ouvert, on dirait que c'est tout comme d'habitude.
Alors, puisque beaucoup ont pris un jour de congé, autant en profiter. Option 1, café au soleil. Option 2, cadeau de Noël, en famille.
On profite pour faire regarder un peu les achats de Noël.
Et les enfants ont la même analyse.
C'est bien.
C'est très bien.
C'est la journée babysitting pour les grands-parents. Ça se passe très bien si ça dure pas tout le mois de décembre.
Et c'est un peu la crainte de certains. Sur le parvis de la Défense ce soir, Lucia est un peu perdue.
En fait, je trouve pas la sortie.
Normalement, elle prend le métro et le tramway pour rentrer chez elle.
Je rentre à pied.
En
trottinette.
Retour sportif, 1h30 de trajet. Alors demain, puisque la grève se poursuit, Lucia restera chez elle.
Parmi les villes les plus touchées par cette grève, Marseille, la circulation des bus et du métro était très, très réduite. La moitié des écoles était fermée et des milliers de personnes ont manifesté dans le centre-ville. Reportage Baptiste Guenet, Pauline Lefrançois et Henri Polamar.
Pour aller travailler à Marseille ce matin, il fallait avancer son réveil.
Je me suis levé ce matin très tôt pour pouvoir prendre le premier train de la journée, en espérant que le train partira ce soir. Voilà, on croise les doigts, on n'a pas le choix. D'ailleurs, on est obligé de subir.
En gare, comme une impression d'être seul au monde.
Tout a l'air de fonctionner, mais il n'y a personne.
Bien voilà. Fantôme.
Ouais, c'est étrange, hein, c'est étrange. Ah ouais, normalement, il y a beaucoup plus de monde.
Dans la région, seuls 30 TER circulent aujourd'hui contre près de 500 habituellement. Résultat, la gare est plutôt vide. Et côté gare routière, c'est plutôt vide également.
Car un peu plus bas, les syndicats ont bloqué les accès. Les cars,
le bus de Aix, c'est pas si bien.
Dont la fréquence avait été augmentée, sont à l'arrêt.
D'accord, mais pars pas, là, y a rien de passe, là. Tout bloqué depuis longtemps. Bon, retourne à la maison.
Les trottoirs transformés en quais d'embarquement, chacun tente de partir, peine perdue.
Je suis en train de prévenir mon patron que je vais pas y arriver, quoi.
Je travaille sur Aix-en-Provence, là je suis encore bloqué à Saint-Charles, je sais pas à quelle heure je vais arriver, et fatalement je vais être obligé de poser peut-être une journée de congé payé.
En ville, métros au ralenti, tramways arrêtés, un tiers du trafic des bus.
Faut avoir de la patience.
Oui, et des bonnes baskets.
Aujourd'hui, place à la débrouille.
Nous sommes en transport en commun. C'est ma chef qui a une voiture. Elle nous a facilité la tâche hier en envoyant des textos pour nous proposer de nous récupérer.
Dans cette entreprise, des étages presque vides.
Tous ces postes sont normalement pleins. C'est de l'activité commerciale, donc il y a du téléphone, c'est dense. Aujourd'hui, c'est curieusement silencieux.
Les salariés présents pouvaient partir plus tôt. Mais ironie du sort, si l'on exclut quelques accros, la circulation était plutôt fluide aujourd'hui autour de Marseille.
À Marseille et ailleurs, des millions de salariés ont tout de même réussi à se rendre au travail. Certains, vous allez le voir, ont déployé des trésors d'ingéniosité. Pierre Galassio et Valérie Daran.
Aujourd'hui, ces salariés font du covoiturage pour aller au travail. Ils habitent proches les uns des autres et ce matin, ils sont partis en avance par peur des bouchons. 15 km de trajet, mais finalement, c'était fluide.
Si ça pouvait être tous les jours comme ça, ce serait super.
La Mélanie, elle est passée me chercher, c'était à 7h40. À 8h30, on était là, c'était tranquille.
Demain aussi, ils viendront travailler ensemble. Dans cette entreprise, un salarié sur deux est présent et les absents sont soit en congé...
Ah. Bonjour Mariam.
...soit en télétravail.
Oui, ça va très bien et toi? Si ça dure une semaine, ça va. Et après, ça fait souvent du bien aussi de sortir de chez soi, de retrouver l'ambiance au travail. Probablement, ça va me manquer.
Une grève qui dure, c'est la crainte de la direction. Certains salariés ne peuvent ni venir en voiture, ni travailler de chez eux. Ils doivent composer avec des transports défaillants.
Les gens sont obligés de se lever tôt, rentrent tard. Ça ajoute à la fatigue sur des délais, des trajets qui sont souvent longs. Et donc ça ne peut pas durer éternellement, clairement.
Si lundi, mardi, la grève continue, vous allez faire comment pour venir?
Si c'est vraiment plus difficile, oui, j'essaierai d'aller dormir chez une collègue qui habite proche de mon lieu de travail.
Dormir proche de son entreprise, chez des amis si possible, ou en payant soi-même une chambre. C'est le cas de cet employé d'un entrepôt du nord de la France.
Ce matin, j'ai dû m'organiser. Tout simplement, j'ai fait une petite location là à côté, pas loin. Donc j'anticipe un petit peu le souci. Quoi. Je savais que ça allait être galère et tout avec les transports. Si ça continue, je verrai comment je vais m'organiser.
Et puis il y a ceux qui ne travaillent pas trop loin. Ceux qui peuvent se passer des transports en commun.
Pas trop le choix, donc c'est parti.
Ce salarié s'est fait prêter un vélo par un collègue. Après 42 minutes de trajet dans la capitale, le voici arrivé.
C'est fatigant.
T'es prêt à le faire plusieurs jours, là?
Je sais pas. Peut-être pas cette distance tous les jours, mais après, prendre le vélo, pourquoi pas, c'est pas désagréable.
Ce jeudi, certains ont réussi à surmonter la grève, parfois même avec le sourire, en tout cas pour l'instant.
Les syndicats l'ont annoncé en fin de matinée, la grève dans les transports sera reconduite jusqu'à lundi soir inclus, métro, bus, tram, train. Comment pourra-t-on circuler dans les prochains jours? Le point complet avec Johan Engen et Delphine Sidbon.
À l'unanimité, ils votent tous pour la reconduite de la grève. Le trafic SNCF restera très perturbé demain.
Là, on est chaud bouillant. Et je peux vous dire que pour nous faire reprendre le boulot, il va falloir qu'ils reculent et qu'ils reculent sur le fond de la réforme. C'est-à-dire que le système de retraite à point, on n'en veut pas.
À la RATP, les grévistes ont prévu de poursuivre le mouvement au moins jusque lundi inclus. Mais dans les autres villes françaises, par contre, les bus et les tramways fonctionneront normalement dès demain, sauf à Marseille et Clermont-Ferrand. Dans les aéroports, pas d'amélioration. Air France supprime 30% de ses vols intérieurs prévus demain.
On me dit que le vol est annulé, donc j'ai dû me chercher un hôtel pour dormir.
Aujourd'hui, aucun camion ne sortait des raffineries françaises. Sur les 8 en activité, 7 pourraient rester en grève demain après le vote de leurs salariés, ce qui a poussé des automobilistes à jouer les écureuils.
J'ai entendu hier soir qu'il y avait potentiellement une pénurie, donc je préfère prendre les devants.
Enfin, de nombreux agents d'EDF continuent la grève et menacent, comme aujourd'hui, de couper le courant dans certaines administrations.
Bonsoir Antoine de Précigou, vous êtes sur le parvis de la gare Montparnasse. Le trafic était très perturbé aujourd'hui, 90% des trains annulés. À quoi doit-on s'attendre pour demain ?
Eh bien demain, ce sera quasiment la même chose, Gilles. Seulement un TGV sur 10 circulera. Même chose pour les intercités, seulement 1 sur 10. D'ailleurs, certaines lignes seront tout simplement supprimées, comme Bordeaux-Nantes ou encore Clermont-Ferrand-Lyon. En revanche, ce sera un petit peu mieux pour les TER. 30% du trafic sera assuré grâce notamment à des bus de substitution sur ces lignes régionales. Vous allez le voir sur cette carte de France, il y aura de grandes disparités en fonction des régions. 4 liaisons de TER sur 10 en Nouvelle-Aquitaine et même 5 sur 10 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais regardez, seulement 1 sur 10, une liaison sur 10 en Bretagne. Et pareil pour les Hauts-de-France, vous l'aurez compris, demain, la situation sera encore très compliquée sur les rails.
Merci beaucoup Antoine pour ce point très complet. Vos enfants ont-ils pu aller à l'école aujourd'hui ? Seuls 30% des établissements scolaires étaient ouverts. Selon le ministre de l'Éducation nationale, 41% des enseignants étaient en grève. Pour demain, le ministère reconnaît que la situation est floue et que l'ampleur de la grève variera d'une école à l'autre. Avec quelles conséquences ? Julien Roux et Thierry Aquette.
Ce père de famille est soulagé. Sa fille Margot va pouvoir être accueillie à l'école.
À ma grande joie, il y a une petite restauration de prévu, donc c'est super.
À Lille, sur les 21 classes de cette école, seules 2 enseignantes sont présentes ce matin. Et certains agents municipaux sont eux aussi en grève. Il n'y a donc pas de garderie. De nombreuses écoles sont restées fermées aujourd'hui et le seront encore demain.
Bah, y a rien du tout, sa maîtresse fait grève, il n'y a pas d'espace éducatif, il n'y a pas de cantine. Donc, comme mamie n'est pas là à proximité cette semaine, bah, j'ai pas eu le choix, j'ai posé ma journée.
Dans les collèges, les perturbations sont visibles. Cet établissement compte habituellement 400 élèves, mais ils étaient seulement une vingtaine devant la grille ce matin.
Il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas été envoyés par leurs parents.
Et pour cause ? Ici, 3 professeurs sur 4 sont en grève.
C'est plus suivi qu'une grève habituelle.
Dans ce lycée de Saint-Étienne, plus de la moitié des cours sont assurés. Les élèves jonglent avec les trous dans leur emploi du temps. Quant aux parents, ils sont réquisitionnés pour le transport.
On ne sait pas trop les bus non plus comment ça se passe. Donc on l'amène, on revient la chercher.
À Colombelles, près de Caen, Audrey a pris un jour de congé pour s'occuper de ses enfants. Mais elle craint que la grève s'ancre dans la durée.
J'espère quand même qu'on retrouvera dès demain la solution de l'école pour continuer à pouvoir travailler.
Dans cette école parisienne, la grève est reconduite demain. Mais la plupart des parents n'ont pas de solution de garde.
C'est pas possible, là. Je dois aller travailler après. Je peux même pas poser une semaine de vacances.
Aujourd'hui, j'étais en télétravail, donc on peut gérer. Mais les autres jours, je sais pas comment faire.
Si certains enseignants seront de nouveau en grève demain, ni les syndicats, ni le ministère ne disposent ce soir de prévisions sur l'ampleur du mouvement.
Dans les cortèges, il y avait aussi quelques leaders politiques, ce qui n'est pas surprenant puisque tous les partis, à l'exception de La République En Marche, du Modem et dans une moindre mesure des Républicains, sont opposés à cette réforme des retraites. Écoutez dans l'ordre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure.
C'est bien un peu que Macron voit qu'il y a du monde, puis il va regarder, il va voir qu'il y a tous les âges, il y a toutes les professions. Ça va un peu le dégriser de la folie où il est de lui-même. Et de croire qu'il est invincible.
On le voit bien, depuis des semaines, le gouvernement entretient un flou volontaire. Et à chaque fois, on a un ministre qui vient contredire le précédent et personne ne sait plus ce qu'ils ont en tête.
L'issue de ce mouvement se jouera donc très certainement par la conquête de l'opinion. Qui des syndicats ou du gouvernement se montrera le plus convaincant ? La bataille a déjà commencé. De nombreux ministres étaient sur le pont toute la journée pour tenter de faire de la pédagogie. Reportage Marie Chantret et Franck Garnier.
15h30 à Matignon. Après avoir déjeuné avec le président de la République, Édouard Philippe arrive pour une réunion.
Racontez-moi.
Avec ses conseillers, nous avons pu exceptionnellement la filmer. Objectif, faire le point sur cette journée de grève.
Globalement, la mobilisation sur SNCF comme RATP était aujourd'hui comme on l'avait anticipé hier.
Remontée d'informations secteur par secteur et première violence constatée dans les cortèges.
C'est quoi comme incident ?
Une cabane de chantier qui a été incendiée.
Emmanuel Macron avait demandé à ses ministres d'occuper le terrain.
Je repasse tout à l'heure.
Édouard Philippe donne l'exemple. Direction désormais le ministère des Transports, où la situation est suivie en temps réel.
Très peu de trafic ferroviaire et très peu de trafic routier.
Extrêmement peu.
L'impact sur les trafics est conforme à ce que nous avions prévu, c'est-à-dire que la grève est dans les transports publics très suivie et le trafic a été évidemment très fortement impacté. C'est vrai pour la SNCF.
Une répartition des rôles qui a été organisée au sein de l'exécutif. Les ministres le savent, la mobilisation pourrait durer. Alors ils sont sur le pont, les caméras ne sont jamais très loin. Dès 6 heures ce matin, dans une station de métro, le secrétaire d'État au transport porte ce message. La concertation et l'écoute sont toujours de mise. C'est
un travail un peu au long cours que nous allons continuer dans les jours qui viennent, mais je fonde l'espoir que nous arrivions rapidement à trouver le chemin du compromis.
Et toute la journée, les visites se sont enchaînées. Agnès Buzyn à l'hôpital, Jean-Michel Blanquer à la cellule de crise du ministère de l'Éducation nationale. Édouard Philippe doit faire connaître ses premiers arbitrages en milieu de semaine prochaine.
Bonjour à tous, merci.
Aujourd'hui, la mobilisation a été forte, mais ce soir, l'entourage du Premier ministre fait savoir que le gouvernement ne renoncera pas.
Nul ne sait comment ce bras de fer entre grévistes et gouvernement se terminera. Un indice tout de même, la porte-parole du gouvernement a assuré aujourd'hui qu'il restait des marges de négociation avec les syndicats. Bonsoir François.
Bonsoir Gilles.
Qu'est-ce que ça veut dire en langage simple? Quelle est la marge de manœuvre du gouvernement?
Ces marges, il y en a deux, le temps et l'argent. Tout d'abord le temps. La mise en œuvre de la réforme pourrait être différée et chacun des régimes existants, les cheminots, les avocats, les salariés, disposerait de son propre calendrier pour rejoindre le futur régime universel. Et au sein même de chaque régime, à la RATP ou à la SNCF par exemple, la réforme ne s'appliquerait que de façon très progressive. Plus d'argent ensuite, il s'agirait de compenser les pertes financières que subiront certaines victimes de la réforme. Le ministre de l'Éducation nationale a déjà annoncé que les pensions ne baisseraient pas pour les 900 000 enseignants. Quant au ministre de l'Intérieur, il a garanti aux policiers que leur régime serait maintenu. En bref, pour pouvoir créer ce fameux régime de retraite unique, la France va donc avoir besoin de nombreuses années et de nombreux milliards d'euros.
Merci. Alors que donc on a appris que par l'OCDE que la France avait donc battu ce record d'impôts, de taxes et de charges, 46,1% du PIB, je crois. Les conséquences de cette première journée de grève sur les entreprises, quelles sont-elles? Eh bien, certaines ont travaillé au ralenti car leurs salariés n'ont pas pu venir travailler. D'autres voient leur carnet de commandes fondre au fil des jours. Reportage Fabien Chadeau, William Villemain et Mathilde Figeon.
Sébastien Guille est le chef cuisinier d'un traiteur. Voici son laboratoire ce matin. Personne.
Aujourd'hui, on a trois réceptions, donc on a anticipé un petit peu nous, au niveau des prods. On a pris une décision de remettre les gens en récup parce que de toute façon, on n'a pas d'activité non plus.
À cause de la grève, le directeur fait ses comptes. Une cinquantaine de réceptions annulées la semaine prochaine. 200 000 euros de contrat en moins.
Ça fait quand même une sacrée baisse de chiffre d'affaires.
D'autant que la période est cruciale. C'est en fin d'année qu'il réalise ses plus fortes ventes.
Si ça dure très longtemps, là, pour le coup, on ne va pas pouvoir mettre en récupération éternellement notre personnel. On va avoir un problème de couvrir nos charges fixes, tout simplement, et d'activité. Donc on espère que ça ne va pas durer trop longtemps.
Même morosité au salon du cheval au parc des expositions de Villepinte, au nord de Paris. Les chevaux sont là, mais pas les visiteurs. On est très loin des allées bondées de la cohue habituelle. Un tiers d'entre eux devait venir en transport en commun. Ils ont apparemment renoncé.
On espérait cette année avoir 120 000, 130 000 visiteurs. Je pense pas qu'on les fera. La journée d'aujourd'hui va nous plomber. Donc non, on les fera pas, c'est certain.
Cet exposant a embauché des vendeurs pour écouler sa marchandise sur le salon. Il a vendu deux fois moins que prévu.
Ce qui est perdu. Demain, on a le nombre de personnes, on a la même taille de stand, on a le stock qu'on a sur place. Ça sera compliqué de rattraper ce qu'on a perdu depuis le début.
Constat identique dans ce restaurant d'entreprise en fin de service ce midi. Les comptes ne sont pas bons.
40% de moins à peu près par rapport à hier.
Peu d'espoir pour demain vendredi, mais il espère un retour à la normale en début de semaine prochaine.
Le gouvernement face à la grève, c'est une émission spéciale de Julien Arnaud sur LCI. Rendez-vous à 20h50, canal 26. L'autre titre de l'actualité de ce jeudi, c'est le verdict très attendu concernant 13 jeunes accusés d'avoir tenté de tuer des policiers à Viry-Châtillon, près de Paris. Les faits, on s'en souvient, remontent à octobre 2016. Certains ont été acquittés, d'autres condamnés à des peines de 10 à 20 ans de réclusion. Thibault Malandrin.
C'est un verdict qui n'a pas contenté grand monde. 5 acquittements et 8 condamnations allant de 10 à 20 ans de réclusion des peines trop légères pour les avocats des 4 policiers violemment agressés et bien en deçà des 20 à 30 ans demandés par l'avocate générale.
Nous avons l'impression que les peines prononcées ne sont pas à la hauteur du crime, elles ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, elles ne sont pas à la hauteur du message que nous attendions.
Le message qui a été passé ce soir, c'est faites 10 ans, sachant qu'avec les remises de peines, de toute façon, beaucoup sortiront bien avant, et de toute manière, la vie des policiers compte peu.
Épilogue d'une affaire qui avait traumatisé la police et choqué tout le pays. 8 octobre 2016, 2 voitures de police sont stationnées près d'une caméra de vidéosurveillance, régulièrement prise pour cible par des délinquants, car elles gênent leur trafic et leur vol à la portière. L'attaque dure moins d'une minute. Une 20aine de jeunes cagoulés lancent sur les 2 véhicules des pierres, puis des cocktails Molotov, bloquant les portières pour empêcher les policiers de sortir. 2 de ces agents sont grièvement brûlés. L'enquête, laborieuse faute de témoignages fiables et de preuves ADN, permettra d'interpeller les 13 accusés, mais sans possibilité d'indiquer clairement qui a fait quoi, ce que regrette la défense.
5 acquittements sont fondés sur exactement les mêmes éléments que les 8 personnes qui ont été condamnées. Et pourquoi la fragilité du dossier a été admise dans un cas et pas dans l'autre, c'est l'incertitude terrible de l'action judiciaire.
Tout au long du procès, les 13 accusés, originaires de la même cité et photographiés ici avant leur interpellation, se sont montrés arrogants et ont nié leur implication.
L'actualité, c'est aussi cette question. 2 mois après l'incendie dévastateur de l'usine Lubrizol à Rouen, le site va-t-il rouvrir ? La direction régionale de l'environnement, qui fait autorité, a donné son feu vert. Que va-t-il se passer concrètement ? Reportage sur place, Marine Brossard, Éric Béra et Marine Der.
Sur le site de l'usine, les opérations de nettoyage se poursuivent. Il reste encore près 1 millier de fûts endommagés à traiter. Redémarrer l'activité dans ces conditions, une décision prématurée pour ceux qui vivent à côté.
Il y a une instruction qui est en cours. On ne sait pas d'où est parti le feu. Donc on ne sait pas, la question se pose, est-ce que c'est prématuré ou pas ? Effectivement, c'est prématuré. Tant que nous ne savons pas où est le point faible de cette usine, elle ne doit pas ouvrir.
Pour avoir un feu vert, Lubrizol s'est engagé à remplir plusieurs conditions, comme par exemple externaliser certaines activités et stocker moins de produits sur son site. La reprise ne sera que partielle, dans le secteur qui n'a pas été touché par l'incendie, uniquement dans ses unités, qui servent à mélanger des produits. L'enjeu est de taille, car l'entreprise fait vivre indirectement plus de 2000 foyers.
Ça fait du travail pour les ouvriers, mais c'est quand même dangereux, je vous assure que... On n'est pas toujours, je vous dis, pas trop rassuré quand même.
Ce qui manque, selon ce président d'association, ce sont des garanties supplémentaires.
Nous demandions en particulier une augmentation des stockages d'eau, la présence de moyens pour éteindre des incendies d'hydrocarbures, des émulseurs. Ça n'apparaît pas très clairement dans ce qui est proposé.
Pour rouvrir le site, les autorités attendent encore un dernier avis qui sera rendu mardi prochain.
Tout autre chose à présent avec notre traditionnelle devinette. Quel est le point commun entre ce pantalon, ce cadeau de Noël et ce stylo ? Tous ont été transportés par bateau. 90% des échanges mondiaux se font par voie maritime, un moyen de transport très polluant. Il existe pourtant un moyen simple de réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout simplement en réduisant la vitesse des bateaux. Certains armateurs le font déjà et le résultat est spectaculaire. C'est le grand format de ce 20h signé Ludovic Romanens, Julien Bervilliers et Vincent Pierron.
À l'heure où tout doit aller de plus en plus vite, ce cargo français long de 180 mètres a décidé de ralentir. Dans ses soutes, de la fonte brute chargée au Brésil. Il vient de traverser l'Atlantique en 17 jours au lieu de 15 en temps normal. La vitesse maximale est de 26 km/h. On navigue maintenant à 22 km/h. Amarré à Bilbao, en Espagne, le capitaine fait un premier constat. En réduisant sa vitesse de croisière de seulement 4 km/h, la consommation de carburant a baissé de 60%. Un bateau comme celui-ci brûle 30 tonnes de fioul lourd par jour. Un liquide visqueux, noirâtre, particulièrement polluant. Lors du raffinage du pétrole, il provient du fond de la cuve. C'est ce qui reste après le gasoil, le kérosène, l'essence et le gaz.
C'est ce qui se trouve en bas de la colonne de raffinage, donc juste avant le goudron.
Donc c'est le produit le moins noble.
C'est ça, c'est l'un des produits les moins nobles.
Second constat, naviguer moins vite a un impact sur les rejets de gaz à effet de serre. Pour un très gros navire comme celui-ci, le CO2 émis passe de 165 tonnes à 75 tonnes par jour, soit 55% de réduction. Un nouveau mode de navigation promu depuis 3 ans par cet armateur français. Selon lui, réduire de 20% la vitesse de tous les navires marchands serait une mesure très facile à mettre en place.
Il y a aujourd'hui des moyens de pouvoir contrôler le suivi par satellite des navires. Une chose qui n'existait pas il y a un certain nombre d'années le permet extrêmement facilement. Techniquement, le contrôle est une chose aujourd'hui qui ne pose aucun problème s'il y a la volonté politique de le faire.
Mais réduire la vitesse des navires peut-elle avoir des conséquences néfastes sur le commerce? Pour répondre à cette question, quelques calculs sont nécessaires. Sur un long trajet, les délais d'acheminement vont augmenter de 6 jours en moyenne. Il faudra donc adapter les moyens de stockage et davantage anticiper les commandes. Selon cet expert en commerce maritime, une telle évolution n'aurait que très peu d'impact sur le prix des marchandises.
On transporte dans des très grandes quantités, c'est-à-dire 100 000 tonnes ou 200 000 tonnes. Donc si je ramène ça à la tonne, ça veut dire de l'ordre de 50 à 80 centimes par tonne. C'est-à-dire un effet sur les coûts qui va être très très réduit.
La réduction de la vitesse des navires est une mesure immédiate, mais insuffisante, face à la pollution générée par toute l'industrie maritime. D'autres sources d'énergie sont à l'étude, comme naviguer au gaz naturel. Ce type d'innovation ne devrait se généraliser qu'à l'horizon 2030.
C'est un jeu, un sport, une discipline et parfois même un art lorsqu'il est pratiqué par de grands maîtres. Des millions d'adeptes dans le monde jouent aux échecs, mais en Norvège, cela va beaucoup plus loin. Les 5 millions d'habitants se passionnent autant pour les 64 cases que pour le football. À l'école, à la maison, sur les smartphones, dans les bars, les compétitions battent même des records d'audience à la télévision. Grands admirateurs de Bobby Fischer, Jean-Marie Bagayoko, Gilda Falin et Simon Blot ont pris la direction d'Oslo.
C'est une passion qui enflamme tout un pays.
C'est le sport national.
Et qui transcende les générations.
Chaque match.
Dans les clubs ou à travers les médias. Dans les cours d'école ou les transports en commun. Comment la Norvège est-elle devenue en quelques années le royaume des échecs? Dans cette école primaire, c'est la règle. Tous les enfants commencent leur journée devant un échiquier.
Si je déplace le pion ici, que se passe-t-il? Emilia?
Le fou sera libre et il pourra se déplacer en diagonale.
Excellent.
Pour cet instituteur, apprendre les échecs dès le plus jeune âge développe l'intelligence des écoliers.
Face à un problème, ils ne se braquent plus. Ils se disent comment le résoudre. Les échecs sont super pour ça. Quand vous jouez, il n'y a pas qu'une solution. Il peut y en avoir 5. La solution parfaite, la bonne, la moyenne, la mauvaise et la très mauvaise. Laquelle vont-ils choisir? C'est comme dans la vie.
Convaincus des vertus du jeu, 3 écoles publiques sur 4 enseignent désormais les échecs.
Ça m'a appris à me concentrer beaucoup plus et plus longtemps. Quand je joue aux échecs, j'apprends à trouver des solutions.
Avant, je ne voyais qu'une option à la fois. Maintenant, j'ai des coups d'avance et j'ai progressé en calcul mental.
Voilà pourquoi l'option échec a été ajoutée au collège et au lycée.
Et depuis 2 ans, cette option échec est la plus demandée par les élèves norvégiens. L'année dernière, près de 200 000 collégiens et lycéens l'ont choisi. 100% de réussite au bac et au brevet. Et ici, on appelle ça l'effet Magnus Carlsen.
Magnus Carlsen, c'est lui. 28 ans, multiple champion du monde, numéro 1 mondial. Une star norvégienne qui a transformé l'image des échecs dans son pays. Fini le jeu ringard avec Magnus Carlsen. Les échecs, c'est branché.
On est très fiers de lui en Norvège.
C'est en partie grâce à lui que je joue aux échecs.
Mais sa popularité n'explique pas à elle seule ce succès des échecs. La télévision, elle aussi, s'est emparée du phénomène. Chaque semaine, cette émission rassemble 300 000 personnes, soit 7 téléspectateurs sur 10. Record absolu pour la chaîne NRK et pour son producteur qui, au départ, a eu une idée folle.
On a mis à l'antenne des parties très longues où vous pouvez attendre des heures avant qu'un joueur fasse un geste. Mais ça marche parce qu'on s'adresse à tout le monde, y compris à ceux qui n'y connaissent rien. Nos invités en plateau sont toujours très célèbres. On a des scientifiques et même d'anciennes stars du football.
De ces cartons d'audience sont nées des opportunités commerciales. Voici le bar le plus fréquenté d'Oslo depuis son ouverture il y a 1 an. Vous êtes là pour les échecs ou pour la bière?
Les deux, je pense.
Échiquier incrusté dans les tables, ambiance décontractée et pop-corn gratuit. Ici, les parties d'échecs s'enchaînent comme des speed dating.
Avant, nous étions un peu considérés comme des ringards. Mais maintenant, jouer aux échecs, c'est très à la mode.
Dans les bars, sur Internet ou dans les clubs, plus d'un million de Norvégiens jouent chaque jour aux échecs.
Cette année, on a un record d'inscription. On n'a jamais eu autant de monde. On atteint les 200 membres.
Et si la Norvège décroche l'organisation des mondiaux en 2022, la fièvre n'est pas près de retomber.
Le producteur de télévision qui avait des faux airs de Robert Plant, le chanteur de Led Zeppelin. Je vous retrouve dans un instant pour votre mag et pour la météo d'Evelyne Delia. Nous irons à la rencontre de Lodvec. Cet ancien professeur de français a choisi d'échapper à la frénésie de la ville pour vivre en pleine nature. A tout de suite et à plein poumon. Retrouvez toutes les... Ses rêves de s'installer en pleine nature, c'est ce qu'il a fait en faisant partager ses expériences. Sylvie Pinatel, Florian Le Goic et Élodie Dubosc ont mis leurs pas dans ses pas.
Le soleil venait de se lever. Il s'est d'abord présenté dans le sable de la mer du Nord.
Ça forge le caractère, un prénom compliqué.
Lodvec.
Dans son prénom, il y a les Flandres, des racines et aussi des envies d'ailleurs.
Vous devez l'assumer, vous devez le porter. C'est comme un sac à dos.
Un prénom pour voyager et signer les chemins de ses aventures.
Il ne faut pas seulement traverser le paysage, il faut qu'il vous traverse également.
C'est une vie hors du temps. Lodvec est un écrivain voyageur qui préfère la courbe du soleil aux aiguilles des horloges.
Ils ont tout changé, quoi. Reste plus que la cheminée de rouge.
Dunkerque, au pied des dunes. De 0 à 18 ans, Lodvec a grandi là.
Voilà, c'était la fenêtre de ma chambre. Tout le matin que je me réveillais, c'était le premier geste, c'était d'ouvrir le volet puis de regarder la mer, quoi. Ça, c'était le premier truc. J'ai grandi là-dedans, quoi. J'étais dans le sable, dans les dunes, avant de savoir marcher.
Sa mère s'est battue pour protéger ses paysages du béton. Militante, fille de résistant, Muriel a choisi pour ses fils des prénoms de caractère.
Après coup, je me suis dit, oh là là, je vais pas faciliter la tâche. Quand ils s'escrimaient au CP, ils s'appelaient tous Valentin, Sébastien, ils s'appelaient Lodvec. C'est vrai que j'y ai pas trop pensé à ça, mais Lodvec, c'est Louis. Et Louis, c'était mon père aussi. J'aime bien ton prénom. C'est parce qu'il est difficile qu'on le retienne.
Ouais.
Un prénom singulier comme un chemin, pour fuir les usines où son père a travaillé toute sa vie.
Il partait tous les matins en prenant le bus, et c'est un bus qui partait toujours à la même heure, il revenait tous les jours à la même heure. C'était un bus d'ouvrier qui allait à l'usine, en fait, tout simplement.
Alors pour changer d'horizon, Lodvec s'en est allé, dans la géographie du monde et des hommes.
Alors on est des êtres organiques, on n'est pas des êtres mécaniques, on n'est pas des outils, on n'est pas des machines. Et c'est pour ça que la nature est importante, parce qu'elle nous rappelle ça, quoi.
Chez les Indiens du Mexique, dans le cœur des Balkans, professeur de français de moins en moins, aventurier de plus en plus. Avec Christelle, sur le Danube, 2500 km jusqu'à la mer Noire. Et dans les Carpates, en sac à dos, 2000 km de marche pendant 4 mois.
Et vous marchiez énormément, 10 heures par jour, c'est énorme.
Entre 8 heures, 10 heures par jour, c'est un peu trop, ouais. Même plus quelquefois, ouais.
Mais marcher pour rencontrer. Au Festival international du film et du livre d'aventure de La Rochelle, l'écrivain précise sa définition du voyage.
Ah bah. Moi, le voyage, c'est d'abord un regard. J'ai déjà rencontré des voyageurs qui avaient fait le tour du monde et qui revenaient inchangés. Ça, c'est le syndrome du hamster. Vous prenez un hamster dans une cage, vous faites le tour du monde, vous revenez chez vous, le hamster a fait le tour du monde, mais il n'est jamais sorti de sa cage. Pour voyager, il faut ouvrir la porte de sa cage.
Allez voir les Carpates, avait-il murmuré. C'est un monde à l'abri de notre temps. J'aurais pu me contenter d'y croire en regardant par la fenêtre, mais il était trop tard. L'aventure m'appelait.
Et à force d'aventure, il a changé de vie. Quand Lodvec est rentré en France avec Christelle, il a cherché sur une carte un endroit avec peu d'hommes et beaucoup de nature. Un coin de dune sur l'océan.
Moi, j'étais un peu citadine. Et ouais, je pense qu'il a raison. C'est clair que je ne reviendrai pas du tout en arrière, quoi. Ça ira plus vers plus de nature que plus de stress et plus de ville, c'est sûr.
Le professeur de français, lui, est devenu saisonnier dans la restauration. 8 mois de travail pour 4 mois d'aventure.
Lorsque vient le printemps, les premiers touristes arrivent, le vent disparaît. Et c'est à ce moment-là que le travail commence, en fait. C'est le travail de la petite fourmi. Moi, je suis une petite fourmi. Je commence mon petit travail au printemps, le plein été. Puis après, ça se calme, ça redescend, c'est l'automne. Et la nature se repose. Et moi, je suis les saisons. Voilà.
Là, il va arriver, là, le soleil. Il arrive, il sort.
Ah. Les derniers rayons du soleil avant qu'il ne se couche. Lodvec s'est alors excusé. Et s'est évanoui dans l'horizon.
Bonsoir ma chère Evelyne.
Bonsoir Gilles.
Contrairement à Lodvec, nous n'allons pas partir tout de suite au bout du monde. On va un peu rester en France pour votre météo de demain qui est assez fraîche.
Oui, mais si vous êtes au nord demain et que vous voulez avoir un petit peu de soleil, eh bien il vous faudra voyager vers le sud.
La météo avec l'assurance mobilité urbaine CIC. Utilisez en toute sérénité les nouveaux moyens de locomotion.
Alors aujourd'hui, il y avait quand même certains d'entre vous qui l'ont vu, le soleil, qui ont pu en profiter sur ces régions du centre. Certes, il y avait pas mal de nuages aussi près de la Méditerranée et surtout cette grisaille, notamment sur le nord du pays. Regardez, on va faire un petit tour à Arras avec ce matin, ben, on apercevait à peine le beffroi. Et cet après-midi, un plafond un petit peu plus haut, mais le soleil n'est pas venu. Alors, difficulté de retrouver du soleil et d'autant plus que demain, nouvelle chose, c'est que la pluie revient avec cette perturbation. Regardez, on a un petit affaissement des hautes pressions, donc la perturbation, bien évidemment, va en profiter pour passer. Alors le problème, c'est qu'elle arrive sur des sols très froids, donc il risque d'y avoir des pluies verglaçantes, et notamment vers les Ardennes. Le département est placé en vigilance à partir de 6h du matin jusqu'à midi. Sinon, cette perturbation devra apporter de la pluie sur son passage, accompagnée de vent. Alors il est vrai qu'on aura encore beaucoup de grisailles, de nuages bas, voire des brouillards givrants sur le nord et le nord-est, en allant jusqu'en Aquitaine et jusqu'à la vallée du Rhône dans la matinée. Et puis dans l'après-midi, ces nuages devraient s'estomper. Ils pourraient rester encore un petit peu vers la vallée de la Garonne. En tout cas, la perturbation va glisser un peu plus avant, toujours accompagnée de pluie et de vent, notamment sur les côtes. Et puis vous aurez beaucoup de soleil en montagne, dans le sud aussi, avec quelques averses orageuses vers la Corse. Regardons les températures. Alors pour demain matin, certes, vous me direz qu'il y aura encore des gelées, mais vous aviez moins 7 degrés ce matin à Reims, il en est prévu moins 2 pour demain. On devrait aller jusqu'à 10 degrés dans la matinée pour Bastia. Dans l'après-midi, toujours de la douceur en Corse avec 17 degrés. Et puis sur les régions du nord, les températures commencent à remonter un petit peu. Ce sera doux d'ailleurs sur la Bretagne. 7 degrés dans la capitale, nous n'en avions que 2 cet après-midi. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, la perturbation va glisser samedi du sud-ouest jusqu'à l'Alsace. Les pluies devraient être faibles, à l'arrière des averses, c'est classique, mais vous aurez beaucoup de soleil dans le sud. Et puis dimanche, en revanche, à nouveau de la pluie, du vent, une journée pas très agréable, mais les températures seront beaucoup plus douces. Dans le sud-est, toujours du soleil. Alors, on attend un coup de vent dans la nuit de dimanche à lundi sur le nord-ouest du pays. Ça va souffler encore lundi avec des éclaircies, moins sur toutes ces régions centrales. Vous remarquez de la neige aussi en montagne. Et puis pour mardi, nouvelle perturbation qui arrive. Et puis mercredi, ce qu'on appelle une traîne, des averses, du vent, de la neige en montagne. Et puis jeudi, un ciel encore bien chargé. Nous en reparlerons demain. D'ailleurs, demain, c'est la Saint-Nicolas. Et puis vous connaissez bien évidemment cette expression, Gilles, un froid de canard. Eh bien, changeons les canards pour deux autres oiseaux aquatiques. Et voici cette magnifique photo hivernale prise ce matin dans le département du Nord. Avec la